Chapitre 19e. Eh bien, dit M. de Bornand à de Raville dès qu'il le vit entrer dans son modeste cabinet de travail, encombré de liasses, de rapports imprimés et communiqués aux membres de la Chambre des Pairs. Eh bien, as-tu vu M. de la Roche-Aigu ?
Je l'ai vu, tout marche à merveille.
Tiens, de Raville, je n'oublierai jamais ta conduite dans cette circonstance.
Je le vois.
C'est pour toi autant une affaire d'argent qu'une affaire de sincère et bonne amitié.
Je t'en sais d'autant plus de gré que, chez toi, la place du cœur n'est pas grande.
Elle l'est assez pour toi. C'est tout ce qu'il me faut.
Je suis ménagé à cet endroit.
Et la gouvernante, lui as-tu parlé ?
Pas encore.
Pourquoi pas ?
Parce qu'il fallait être convenu de différentes choses entre nous.
Je te dirai quoi ? Du reste, il n'y a pas de temps perdu. Madame l'aînée, la gouvernante, « agira comme je voudrais, et quand je voudrais. Elle est à moi. »«
Que t'a dit, monsieur de la Roche-Aigu ?
A-t-il été satisfait des renseignements qu'il a pris ?
Mes collègues et amis politiques m'ont-ils bien servi ?
Crois-tu que... »« Ah, si tu ne me laisses pas parler. » »«
C'est que vois-tu, depuis que la première pensée de ce mariage m'est venue, et j'ai une bonne raison pour ne pas oublier la date de ce jour-là, » ajouta monsieur de Mornant avec un sourire amer,
« ce duel ridicule avec ce maudit bossu me la rappellera toujours, cette date. Mais enfin, depuis lors, te dis-je, ce mariage est pour moi une idée fixe. C'est qu'aussi, juge un peu, placé comme je le suis, quel levier qu'une telle fortune, le pouvoir, les plus grandes ambassades, c'est immense, te dis-je, c'est immense.
As-tu fini ?
Oui, oui, je t'écoute.
C'est heureux. Eh bien. »
Tous les renseignements que M. de la Roche-Aigu a obtenus sur toi corroborent ce que j'avais avancé. Il a l'intime conviction que, tôt ou tard, tu dois arriver au ministère ou à une grande ambassade, mais que ton heure serait singulièrement avancée si tu jouissais d'une position de fortune aussi considérable que celle que t'assurait ton mariage avec Mademoiselle de Beauménil. On préfère, quand par hasard ça se trouve, des ministres ou des ambassadeurs puissamment riches. On se figure que c'est là une garantie contre toutes sortes de vilainies. Donc, le bonhomme La Roche-Aigu est certain que, s'il arrange ton mariage avec sa pupille, une fois au pouvoir, tu le feras nommer pair de France. Or, si les pendus ressuscitaient, cet enragé se ferait pendre pour siéger au Luxembourg. C'est sa manie, son infirmité, sa lèpre, ça le dévore. Et tu penses bien que je l'ai gratté à vif là où il lui démangeait. Mon mariage fait... Sa pairie est assurée. Il est président d'un conseil général depuis de longues années. J'emporterai la nomination de haute lutte. Il n'en doute pas, et comme il a des mœurs antiques, il s'en rapporte à ta promesse, et promet d'agir immédiatement dans tes intérêts auprès de sa pupille.
Bravo.
Et Mademoiselle de Beauménil, qu'en dit-il ? Il doit avoir bon espoir, si jeune, si isolée. Elle ne peut pas avoir de volonté. On en fera ce qu'on voudra. Il ne la connaît que depuis hier, mais, grâce à quelques mots assez adroitement jetés, il a cru deviner que cette petite personne a de grandes dispositions à être ambitieuse, vaniteuse à l'excès, et que la tête lui tournerait infailliblement à la pensée d'épouser un ministre ou un ambassadeur futur, afin d'avoir ainsi à la cour le pas sur une foule de femmes, d'une condition plus subalterne.
« C'est providentiel !»
s'écria M. de Mornant. Ne se possédant pas de joie. Et quand la verrai-je ?
À ce sujet, j'ai une idée.
Je n'ai pas voulu en faire part à La Roche-Aigu avant de t'en parler.
Voyons l'idée,
dit M. de Mornant en se frottant joyeusement les mains. Il est d'abord entendu que tu n'es pas beau, que tu es gros, que tu as du ventre, que tu as l'air horriblement commun.
Crois à ma sincérité, c'est un ami qui te parle.
À la bonne heure, répondit de Mornant, en cachant le désagrément que lui causait la trop amicale franchise de Doraville. Entre amis, on doit oser tout se dire et savoir tout entendre.
La maxime est bonne.
J'ajouterai donc que tu n'es ni séduisant, ni spirituel, ni aimable. Mais heureusement, tu as mieux que cela, tu as, à ce qu'il paraît, un grand tact politique. Tu as fait une étude approfondie de tous les moyens employés pour corrompre les consciences. Tu es né corrupteur comme on est chanteur, et de plus... Tu jouis d'une éloquence âgée et continue, capable d'éteindre, de noyer la fougue des plus chaleureux orateurs de l'opposition. Tu es appelé à devenir le chrysopompe, que dis-je, la pompe à incendie du cabinet qui t'appellera dans son sein.
de sorte que si dans un salon tu es lourd, empêtré, mal tourné, comme tous les gros hommes, une fois à la tribune tu es imposant, ronflant, triomphant, la balustrade cache ton ventre. Sous ton habit brodé, ton buste tourne majestueux, tu peux même prétendre à une belle tête. « À quoi bon tout cela ?» répondit de Mornant avec impatience. « Tu sais bien que nous autres hommes politiques, nous autres hommes sérieux, nous ne tenons pas le moins du monde à être des freluquets, des beaux. Ce que tu dis là est bête, comme tout, et il ne fallait pas m'interrompre. Je poursuis. Bien des choses dépendant d'une première impression, il faut donc tout de suite apparaître aux yeux de Mademoiselle de Beauménil sous ton plus brillant côté, afin de la fasciner, de la magnétiser, comprends-tu cela ?»
« C'est juste, mais comment ?»«
Tu dois parler dans 3 jours à la Chambre. »«
Oui, sur la pêche de la morue,
un discours très étudié. »«
Eh bien, il faut que tu sois triomphant, poétique, attendrissant, pastoral, dans la pêche de la morue, et c'est facile, en se tenant toujours à côté de la question. »«
Tu peux parler des pêcheurs, de leur intéressante petite famille, des tempêtes sur la grève, de la lune sur la dune, du commerce européen, de la marine et autres balivernes. »
Mais je n'ai envisagé la question que sous le point de vue économique.
« Il ne s'agit pas d'économie !»
s'écria de Raville en interrompant son ami. « Il faut, au contraire, prodiguer les trésors de ton éloquence pour éblouir la petite Beauménil à l'endroit de la pêche de la morue. »«
Ah ça, tu es fou !
Écoute-moi donc, gros innocent. »
Le bonhomme La Rochegue aura le mot, la gouvernante aussi, de sorte que demain et après-demain, la petite fille entendra dire autour d'elle sur tous les tons
c'est jeudi que doit parler à la Chambre des Pairs le fameux, l'éloquent monsieur de Mornant, le futur ministre.
Tout Paris sera là, on s'arrache les billets de tribune, car lorsque monsieur de Mornant parle, c'est un événement.
Je comprends, de Raville, tu as le génie de l'amitié, s'écria monsieur de Mornant.
La Rochegue trouve naturellement le moyen d'amener mademoiselle de Beauménil à vouloir assister à cette fameuse séance par curiosité. Moi, je les ai devancés. Il est convenu que La Rochegue amusera l'infante aux bagatelles de la porte, qu'au moment où, montant à la tribune, tu auras ouvert le robinet de ton éloquence. Alors, je sors, je cours avertir le tuteur, qui entre avec sa pupille au plus beau moment de ton triomphe.
C'est parfait.
Et si parmi tes compères, tu peux, à charge de revanche, recruter une claque bien nourrie et larder de
« Ah, très bien, c'est évident, bravo, admirable, etc., etc. »
La chose est enlevée.
« Encore une fois, c'est parfait.
Il n'y a qu'une chose qui me contrarie, dit Mornant.
Quoi ?
Dès que j'ai parlé, cet enragé de Montdidier prend à tâche de me réfuter. Ce n'est ni un homme politique ni un homme pratique, mais il est mordant, comme un démon. Il a l'audace de dire tout ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Et si devant mademoiselle de Beauménil, il allait...
« Homme de peu de ressources, rassure-toi donc.
Dès que tu auras fermé ton robinet... Et pendant que tu recevras les nombreuses félicitations de tes compères, nous nous exclamerons
« C'est admirable, étonnant, étourdissant. C'est du Mirabeau, du Fox, du Sheridan, du Canning. »
Il faut rester là-dessus. Ne rien entendre après cela et nous sortons vite avec l'infante. Ensuite de quoi cet enragé de Montdidier pourra venir à la tribune t'immoler, te ridiculiser tant qu'il lui plaira. Du reste, sois certain d'une chose, et je te gardais cela pour le bouquet, tu te retirerais de la vie politique. Tu dirais catégoriquement au bonhomme La Rochegue que tu ne peux pas le faire pair de France, car pour une idée lumineuse qui m'est venue, non seulement le baron pousserait encore de toutes ses forces à ton mariage, mais tu auras aussi pour toi madame de La Rochegue et sa belle-sœur, tandis que maintenant, tout ce que nous pouvons espérer de plus avantageux, c'est qu'elle reste neutre.
Mais alors, pourquoi ne pas employer ce moyen tout de suite?
J'ai posé quelques jalons, hasardé quelques mots, mais j'ai tout laissé dans le vague.
Pourquoi cela?
Dame, c'est que je ne sais pas, moi, si cela te conviendrait. Tu pourrais avoir des scrupules, et pourtant, on a vu les gens les plus honnêtes, les plus considérables, des rois même.
Des rois?
Que je meure si je te comprends, de Raville. Explique-toi donc.
J'hésite.
Les hommes placent quelquefois si singulièrement leur amour-propre.
Leur amour-propre?
Après tout, on n'est pas responsable de cela.
Que peut-on contre la nature?
Contre la nature? Mais en vérité, de Raville...
Tu deviens fou, qu'est-ce que tout cela signifie?
Et dire que tu es assez heureux pour que les apparences soient pour toi. Tu es gras, tu as la voix claire et presque pas de barbe.
Eh bien, après, tu ne comprends pas?
Non.
Et il se dit homme politique.
Que diable viens-tu me chanter de ma voix claire, de mon peu de barbe et de la politique?
Mornant.
Tu me fais douter de ta sagacité. Voyons. Que m'as-tu dit avant-hier à propos du projet de mariage de la jeune reine d'Espagne ?
Avant-hier.
Oui. En me confiant un secret d'État, surpris en haut lieu.
Silence.
Sois tranquille. Je suis discret comme la tombe. Rappelle-toi ce que tu me disais.
Je te disais que si un jour l'on pouvait marier un prince français à la sœur de la reine d'Espagne,
le triomphe de la diplomatie serait de donner pour mari à la dite reine un prince qui offrit assez de sécurité, assez de garantie par ses antécédents. Il paraît qu'en diplomatie de famille, ils appellent cela des garanties et des antécédents.
Bah toujours.
Un prince, dis-je, qui offrit des garanties telles que la reine, ne devant jamais avoir d'enfants, le trône appartiendrait plus tard aux enfants de sa sœur, c'est-à-dire à des princes français.
Magnifique combinaison, ajouta le futur ministre avec admiration.
Ce serait continuer la politique monarchique du grand roi. Question européenne, question dynastique.
Question de autre chose,
répondit de Raville en haussant les épaules, mais il n'importe. L'enseignement est bon, profites-en donc.
Quel enseignement ?
Réponds-moi. Quels sont les seuls parents qui restent à Mademoiselle de Beauménil ?
Monsieur de la Rochegue, sa sœur, et après eux, la fille de Monsieur de la Rochegue, qui marie en province.
Parfaitement. De sorte que si Mademoiselle de Beauménil mourait sans enfant,
parbleu, c'est la famille de la Rochegue qui hériterait d'elle. C'est clair comme le jour. Mais où diable veux-tu en venir ?
Attends. Maintenant, suppose que la famille de la Rochegue puisse faire épouser à Mademoiselle de Beauménil un mari qui présenta ses garanties, ses antécédents rassurants, dont tu me parlais tout à l'heure au sujet du choix désirable du mari de la reine d'Espagne. Est-ce que les La Rochegue n'auraient pas le plus immense intérêt à voir conclure un mariage, qui, devant être sans postérité, leur assurait un jour la fortune de leurs parentes ?
De Raville, je comprends,
dit Monsieur de Mornant d'un air cogitatif et frappé de la grandeur de cette conception. Voyons. Veux-tu que je te pose, aux yeux de la Rochegue, comme un homme, sauf le sang royal, parfaitement digne d'être le mari d'une reine d'Espagne, dont le beau-frère serait un prince français?
Songe-y,
c'est rallié à toi la sœur et la femme du baron. Après un long silence, le comte de Mornant dit à son ami d'un air à la fois diplomatique et majestueux,
« De Raville, je te donne carte blanche ».